l'évangile de Marc, le chapitre 10. L'évangile de Marc, chapitre 10. Je vais lire quelques versets dans ce chapitre. L'évangile de Marc, chapitre 10, les versets 32 à 34. L'évangile de Marc, chapitre 10, versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus alla devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qu'il devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà le texte que je voulais partager ce matin avec vous. C'est le chemin de la passion. J'ai intitulé le titre ce matin, le chemin de la passion. Mais quand on regarde un petit peu ce chemin que le Seigneur a mené, en tout cas, jusqu'à pour arriver ici, dans le texte, nous voyons bien qu'il y a un peu une manière de faire qui n'est pas habituelle. Le Seigneur est devant les disciples, les disciples sont derrière. Les annonces que le Seigneur venait de leur faire, ici et avant cela, il savait bien qu'en allant à Jérusalem, ça allait être un moment difficile et troublé. Et c'est la preuve de voir, là, dans ce texte, que les disciples étaient dans le trouble et dans la crainte. Ils savaient qu'aller à Jérusalem, c'était aller peut-être dans la persécution, et vous pouvez bien imaginer dans leur cervelle ce qui pouvait se passer à ce moment-là. J'ai réfléchi un petit peu à ce que Marc, quand il a écrit le texte, je suis persuadé que Marc était quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament, et je suis persuadé que quand il a écrit l'Évangile, il devait sûrement se rappeler du chant du serviteur dans le livre de l'Apocalypse. Et en réfléchissant un petit peu à ce chant du serviteur, c'est le fameux passage que nous connaissons tous, hein, dans Ésaïe chapitre 53. Eh bien, je voudrais accompagner cette lecture ce matin avec ce passage qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ce texte a été prophétisé, annoncé 7 à 8 siècles avant ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Donc vous pouvez imaginer un petit peu, quand vous lisez ce passage, eh bien de vous rappeler que ce passage a été écrit 7 siècles avant que le Seigneur vienne ici-bas sur cette terre. Alors j'ai demandé à mon épouse de lire ce passage, donc Ésaïe, chapitre 52, à partir du verset 13, et on lira jusqu'au chapitre 53, verset 12, de ce passage.
Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Amen. Comme nous pouvons le voir dans ce texte que nous venons de lire, Jérusalem, ce n'était pas l'endroit paradisiaque. Ni pour le Seigneur Jésus-Christ, ni pour ses disciples. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Jérusalem, la visiter. C'est un endroit formidable. Ça attire beaucoup de peuples du monde entier, si vous allez là-bas à l'heure actuelle, mais à l'époque, il faut bien avouer que le Seigneur Jésus-Christ montre quand même un sacré courage d'aller vers cet endroit. Pour le Seigneur Jésus, Jérusalem, c'était Golgotha. Et je pense que, en y réfléchissant un petit peu ce matin, au travers de la prédication que nous allons aborder, regarder ensemble, il y a deux points importants sur le chemin de l'ascension, et le texte nous le montre clairement. Tout d'abord, le premier point de la passion, c'est le trouble parmi les disciples. Alors, essayons de réfléchir un petit peu à ce trouble, à ces craintes parmi les disciples. Le Seigneur venait de l'annoncer déjà deux fois. Ils étaient quand même au courant. Marc chapitre 8, Marc chapitre 9, et dans d'autres endroits où le Seigneur a expliqué pourquoi il devait aller à Jérusalem. Ce n'était pas une annonce à l'aveuglette. Ça faisait partie ici de la troisième fois que le Seigneur va leur expliquer clairement ce qui allait se passer. En attendant, ça laisse les disciples dans la perspective, je dirais, perplexe, si on pourrait dire cela, dans une crainte, dans un trouble, parce que Jérusalem était une belle cité, mais une cité où le Seigneur allait mourir, et les disciples, malheureusement, dans leur attitude, ne voulaient rien entendre parler de cela. Jérusalem, pour eux, s'ils y allaient, eh bien, ça allait être l'endroit honteux où le Seigneur allait mourir, mais dans leur attitude, eh bien, leur perspective était de ne pas comprendre un petit peu le message du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons même, un petit peu après, nous le verrons la prochaine fois, où Jacques et Jean, vous pouvez imaginer un petit peu le chemin, En allant vers Jérusalem, Jacques et Jean vont lui demander simplement, est-ce que l'un peut être à gauche et à droite, pardon, et l'autre peut être à gauche quand tu seras allé dans le ciel? La perspective dans leur tête, c'était peut-être le trouble et la crainte, mais quand même, une maman vient aborder le Seigneur Jésus-Christ, lui demandant, peux-tu permettre que l'un soit à droite et l'autre soit à gauche? Même s'il y avait un trouble dans leur cœur, eh bien, les discussions sûrement allaient bon train. Le chemin était vers Jérusalem, et au plus ils s'approchaient de Jérusalem, au plus les réactions allaient devenir importantes, bien sûr, dans leurs yeux. Pierre avait réagi quand la première fois le Seigneur lui avait dit, eh bien, je dois aller à Jérusalem pour mourir. Vous vous rappelez un petit peu de l'attitude de Pierre? Oh, viens avec moi, Seigneur. On doit discuter en tête à tête. Tu es en train de faire une annonce, ça c'est pas bon du tout. Alors là, si tu veux pas faire ce genre d'annonce, c'est pas là qu'il faut le faire, c'est pas ce genre de choses qu'il faut discuter. Il faut plutôt dire, parler d'un royaume glorieux, n'est-ce pas? Non, c'était pas du tout ça. Le Seigneur l'a même repris dans son cœur, et lui a dit, arrière de moi Satan, parce que le chemin que le Seigneur était en train de mener était le chemin que le Père voulait que Jésus mène. Mais Pierre a été repris, et nous voyons là que la croix ne plaisait pas, et le chemin que le Seigneur devait prendre ne devait pas plaire ni aux uns ni aux autres. Ils étaient troublés, et dans la crainte, au plus, ils s'approchaient de Jérusalem. Deuxième point, c'est l'annonce du Sauveur. Au verset 33 et au verset 34, il va leur dire clairement, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. C'est la troisième fois que le Seigneur va faire cette annonce. Il va leur dire clairement les choses, je dirais, dans une clarté, je dirais, de plus en plus, afin que les disciples puissent comprendre le message qu'ils attendaient à Jérusalem. Et de voir pour eux un Messie mourir, ce n'est pas dans leur conception. J'ai retrouvé dans mes commentaires, dans ma bibliothèque, un historien du 19e siècle, je n'ai pas retrouvé son nom, mais voici comment ils attendaient la venue du Messie. La venue du Messie sera présentée du temps de tribulation, c'est-à-dire que quand le Messie allait venir, il allait y avoir un temps de tribulation. Dans les tourments, le prophète comme Élie apparaîtrait pour annoncer la venue du Messie. Le Messie établirait son royaume glorieux et justifiera son peuple. Les nations s'allieront pour combattre le Messie. Cinquièmement, le Messie détruira toutes les nations hostiles. Les Romains faisaient partie du lot quand un Juif comprenait que le Messie devait venir établir son royaume. Jérusalem sera restaurée, renouvelée et rendue glorieuse. Les Juifs dispersés de la surface de la terre retourneront à Jérusalem. Israël deviendra le centre du monde et toutes les nations se soumettront au Messie. Vous pouvez imaginer un petit peu ce qu'il y avait dans les disciples? Dans la tête des disciples, il n'y avait pas un Messie qui allait mourir. Ce n'était pas du tout dans leur conception. Les disciples n'avaient pas du tout cela dans leur esprit. Un Messie, encore moins un Messie qui allait ressusciter. Ce n'était pas dans leur tête. Ils attendaient un Messie glorieux. Un Messie qui allait rétablir la paix en Israël, à Jérusalem. Ils avaient l'idée que le Messie allait restaurer une nouvelle et glorieuse venue au travers du Messie. Donc, inapproprié le message du Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, le Seigneur va leur dire exactement ce qu'il devait se passer. Alors, regardons un petit peu plus en détail. Vous avez ici une expression au verset 33, « Fils de l'homme ». Fils de l'homme, c'est une expression que vous trouvez dans la Bible 81 fois, et surtout dans les évangiles. Mais au travers de ces trois petits mots, eh bien, on va regarder un petit peu cinq aspects pour comprendre vraiment pourquoi cette expression se trouve dans la parole de Dieu. Le premier aspect, c'est le Fils de l'homme souffrira de la déloyauté, pardon, de l'un de ses disciples. Alors, vous connaissez le traître, mais le traître a été pendant 3 années avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu les mêmes enseignements que le Seigneur a donné aux autres disciples. Il a vu les mêmes miracles des autres disciples. Il a vu des choses extraordinaires, des choses que Dieu a fait ici-bas sur cette terre, les mêmes choses que les 12 disciples ont vues, eh bien, et il a vu exactement la même chose. Et en attendant, la Bible nous dit que Judas a livré Jésus pour 30 pièces d'argent, selon les Écritures qui étaient prédites dans Zacharie chapitre 11, verset 12. Il fallait un traître, et ce traître n'a pas entendu et compris le message du Seigneur Jésus-Christ. C'est triste de voir que pour un simple baiser, eh bien, il a livré son sauveur. Et je me dis, son cœur devait vraiment être sale. Et son cœur devait vraiment être horrible à un moment donné. Vous connaissez la fin de ce châtiment que le Seigneur a donné à un moment donné à Judas. Deuxième aspect du Fils de l'homme, c'est que Jésus souffrirait d'être rejeté par Israël. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 11, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » C'est triste, n'est-ce pas, de savoir que les principaux sacrificateurs, les scribes, les premiers l'ont rejeté, c'est-à-dire les premiers religieux, ceux qui avaient la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, l'ont rejeté. Celui qui a été le président du Sanhédrin à l'époque l'a rejeté. C'est-à-dire que tous ces personnages qui connaissaient exactement ce que le Messie promit, eh bien, nous avons dans la parole de Dieu des exemples où ces aristocrates religieux, eh bien, d'Israël de l'époque ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Et même eux l'ont crié haut et fort, Matthieu chapitre 27, verset 22, « Crucifie-le ». Vous pouvez imaginer un petit peu le chemin de la Passion. Jérusalem, aller à Jérusalem, c'était « les spécialistes vont me rejeter ». Les disciples vont me rejeter, c'est-à-dire les 12, le premier Judas, mais tous les autres vont aussi le rejeter. Au cours de l'arrestation, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu chapitre 26, verset 56. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas, de se dire, je vais à Jérusalem et ces gens que j'ai été avec moi durant 3 ans, à un moment donné, ils vont prendre la fuite, ils vont fuir eux aussi. La Bible nous dit que même le Père l'a abandonné sur la croix. Jésus a crié à un moment donné, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous connaissez la raison. C'est parce qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité. Et au travers le fait qu'à un moment donné, il a été crucifié sur la croix et qu'il a pris tous les péchés de l'humanité, eh bien, le Seigneur, durant un instant, s'est tourné pour ne pas regarder le péché que Jésus-Christ allait prendre sur lui. Deuxième aspect, Jésus souffrira de l'injustice en parlant du Fils de l'homme. Un procès illégal, injuste. Quand vous regardez la parole de Dieu, quand on va le regarder ensemble, quand on va arriver à la fin de l'évangile de Marc, vous allez voir que ce procès était vraiment un procès illégal. Pilate et Hérode ont même jeté à mort le Seigneur Jésus-Christ, mais c'était vraiment injuste. Ils ne voyaient rien de mauvais en lui, et malgré cela, il a été jusqu'à la mort de la croix. Il a été crucifié. Quatrième aspect du Fils de l'homme, c'est qu'il souffrira la raillerie, nous dit le texte, nous dit la parole de Dieu, raillerie des membres du Sanhédrin, raillerie d'Hérode, raillerie des soldats, raillerie des soldats de Pilate, bref, le procès juif de l'époque vient à garder, bien sûr, des traces dans l'injustice et dans les insultes que le Seigneur a reçues avant d'aller jusqu'à la croix. Cinquième aspect, et c'est le dernier, il a souffert les blessures corporelles. Alors, je ne suis pas là pour montrer le sang, mais quelque part, je me dis, le sang est parfois nécessaire de le montrer. Nous avons lu dans l'Ancien Testament que c'est pour nous qu'il a fait cela, le Seigneur Jésus-Christ. Et je me dis parfois, quand on joue un peu trop au péché, eh bien, je me dis, rappelons-nous le chemin que le Seigneur a mené ici-bas, ce chemin de la passion. C'est pour nos péchés que la Bible dit qu'il est mort. C'est pour nos meurtrissures qu'il est allé sur la croix. Alors, parlons-en de ces flagellations des Romains de l'époque. Les flagellations, c'était un fouet de lanière qui terminait souvent par des os, par des pierres ou des métaux. Vous pouvez imaginer un petit peu la flagellation que le Seigneur a subie à votre place, à un moment donné bien précis dans son existence. Jérusalem n'était pas le paradis. La route du chemin que le Seigneur a mené était pour vous et pour ses disciples et pour son peuple aussi. Les souffrances que le Seigneur a menées dans le Nouveau Testament sont souvent citées au pluriel. Donc, ce n'est pas une seule souffrance, c'est plusieurs souffrances qu'il a menées pour vous. Il était exempt de péché. Il a souffert la mort pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Moi, je voudrais dire amen à ça. Il a souffert la mort pour que nous puissions, nous, avoir la vie. Je voudrais terminer par un texte écrit par l'apôtre Pierre, quelques années plus tard. 1 Pierre chapitre 2 versets 21 et 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous le suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'y avait point de trouble de fraude, Lui qui injuriait ne rendait point de jure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés avec le berger et le gardien de vos âmes. Amen. J'espère que vous avez compris le chemin de la passion. Pour le Seigneur Jésus-Christ, ça ne devait pas être un jour merveilleux. Mais pour nous, c'est la vie. Et ce chemin doit nous faire rappeler, ce chemin de la passion doit nous faire rappeler que c'est la vie qui est au bout. Le Seigneur a promis la vie. Le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Notre chemin à nous, à un moment donné, va s'arrêter, bien sûr. Mais nous serons avec lui durant l'éternité. Il est l'exemple que nous devons mener ici-bas sur cette terre. Nous devons, comme l'a rappelé Pierre, marcher sur les mêmes traces que le Seigneur a marché. Oh, il ne nous demande pas d'aller à la croix. Il ne nous demande pas d'être crucifié. Lui l'a fait à notre place. Et c'est la chose la plus merveilleuse que je puisse voir dans la parole de Dieu. Il était en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Et il commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir. Et le troisième jour après, il ressuscitera. Amen. Amen. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Que le Seigneur soit glorifié, que nous puissions avoir cette pensée dans notre esprit durant la semaine. Il est mort pour nous donner la vie. À Dieu soit toute la gloire. Amen.